Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie et de ce nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous vous l'avons annoncé la semaine dernière, les représentations de Cenerentola ont commencé le 27 mars à l'Opéra National du Capitole. Il en reste encore 5 d'ici le 7 avril et c'est une belle occasion de découvrir sur scène le chef-d'œuvre de Rossini dans la mise en scène de Barbet Doucet et avec de nombreuses prises de rôle et de jeunes talents à y découvrir. Autre belle occasion à ne pas rater dans les jours à venir, le concert du Quatuor Modigliani à Saint-Pierre-des-Cuisines mardi 9 avril. La venue à Toulouse d'une de nos plus prestigieuses formations de chambre est toujours un événement et nous allons avoir la chance de pouvoir vous le présenter avec l'un de ses membres fondateurs, l'altiste toulousain Laurent Marfin, avec qui nous allons nous entretenir d'ici une quinzaine de minutes. Bien sûr, j'ai aussi mon fidèle complice à mes côtés pour animer cette émission, l'ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et c'est avec Serge que nous allons revenir sans plus attendre sur l'actualité musicale récente. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Serge. Un seul concert au sommaire de ce retour arrière, celui donné jeudi dernier par l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains. Une soirée qui avait beaucoup d'attrait. D'une part, on a pu y découvrir la chef française Ariane Matiak, pour la première fois à la direction de notre ensemble symphonique. Et puis, il y avait un programme français qui nous proposait une autre découverte, une autre première a priori, les 7 paroles du Christ en croix de César Franck, données enfin en concert à Toulouse. Il y a aussi du Gabriel Fauré. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais que vous nous présentiez d'abord Ariane Matiak, que pour ma part, je ne connaissais que de nom et encore assez lointainement. Alors même oui. Si elle a quelques acquaintances avec notre région parce qu'elle a été quelque temps assistante à l'orchestre de l'Opéra de Montpellier, chef qui a 44 ans. Hein,
donc oui, elle, oui, c'est ça. Oui.
Qui est en pleine maturité.
En pleine maturité, jeune, dynamique, vraiment avec un sens de la direction vraiment intéressant. Elle a grandi en fait dans un environnement très musical. Ses deux parents étaient musiciens, chanteurs même. Elle a commencé à jouer du piano et à chanter. Alors ce qui est incroyable, donc, c'est qu'elle a étudié la direction d'orchestre à Vienne, où elle a notamment chanté sous la direction de Nicolas Sardancourt et Adam Fischer, dans le fameux célèbre chœur Arnold Schönberg de Vienne. Donc, elle a vraiment, elle couvre un panorama extrêmement complet des activités musicales. Et donc, sa venue à Toulouse coïncide là avec la célébration, évidemment, du centenaire de la disparition de Gabriel Fauré. Et donc, comme vous l'avez dit, avec la résurrection d'une grande œuvre symphonique et chorale de César Franck, deux des grands compositeurs français de la fin du 19e et du début du 20e, c'était déjà un intérêt énorme. Alors, de Gabriel Fauré, puisque c'est par lui qu'a commencé le concert, toute la première partie lui était consacrée, eh bien, ça a été d'abord la suite d'orchestre Péléas et Mélisande, Opus 80, qui est une suite qui date de 1909. Bon, c'est probablement l'œuvre symphonique la plus connue de Gabriel Fauré. Mais là, elle a choisi vraiment la version la plus complète et probablement la moins souvent donnée de cette suite, puisque la suite, on le sait, est tirée de la musique de scène pour la pièce de Maurice Maeterlinck, qui comportait à l'origine 19 mouvements. Et donc, Gabriel Fauré l'a d'abord limitée à 3 épisodes. Et puis ensuite, elle s'est enrichie de la fameuse Sicilienne, qui est devenue vraiment l'épisode le plus connu, le plus souvent donné de cette suite. Et puis, il a rajouté encore la chanson de Mélisande, qui nécessite alors l'intervention d'une voix de soprano. Et nous avons eu droit à cette version, en 5 épisodes, de Péléas et Mélisande. Alors, on a d'abord pu admirer la délicatesse, la douceur de la direction d'Ariane Matiak, très très caractéristique dès le prélude, et puis avec la mise en évidence des grands solos instrumentaux qui parcourent toute l'œuvre, le cor, le hautbois, le violoncelle, évidemment la flûte qui est souveraine dans la Sicilienne, et puis la poésie donc de l'ensemble de l'œuvre. Et nous avons découvert là la belle et fraîche voix de Florie Valiquette, qui est une soprano et donc qui chantait la chanson de Mélisande avec une émotion qui s'insinue de manière très artistique jusqu'au silence qui conclut l'épisode de la mort de Mélisandre. Vraiment un très beau moment, très émouvant. Ensuite, nous avons entendu 5 mélodies qui donc poursuivaient cette exploration du monde musical de Fauré. Alors, Fauré a orchestré lui-même les 4 premières qui ont été données et la 5e a été orchestrée par André Messager. Donc, nous avons découvert là, ou retrouvé, 3 chanteurs, donc évidemment Flory Valiquette d'abord, qui est la soprano, et puis le baryton Jean-Sébastien Bou, que l'on a vu déjà ici sur la scène, et puis pour ma part j'ai découvert le ténor Julien Bert, vraiment une découverte magnifique. Hein. Là je dois dire que c'est lui qui m'a scotché en quelque sorte. Donc nous avons eu droit d'abord le fameux Clair de Lune, une sorte d'idéal poétique, chanté par Julien Bert, magnifiquement chanté par lui. Et puis ensuite, Jean-Sébastien Bou a chanté les 2 mélodies En prière et La chanson du pêcheur, alors que la soprano chantait avec finesse, vraiment, la belle mélodie des Roses d'Ispahan, dans laquelle ensuite elle s'est associée au ténor pour la tarentelle finale, le 5e, donc celui qui a été orchestré par André Messager. Donc un beau recueil avec beaucoup de poésie que ces 5 mélodies très intéressantes.
On va faire un premier arrêt, si vous voulez bien, sur cette partie, cette première partie entièrement fauréenne. Je vous avais indiqué la semaine dernière que l'Orchestre National du Capitole, dirigé à l'époque par Michel Plasson, avait enregistré une version de Péléas et Mélisande en 1982, et après le fameux troisième mouvement Sicilienne, je vous propose aujourd'hui d'écouter le deuxième, intitulé Fileuse.
Thank you.
fileuse, magnifique et très poétique. Deuxième mouvement de Péléas et Mélisande dans la version enregistrée en 1982 par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Michel Plasson. Un disque que vous pouvez retrouver encore aujourd'hui sous le label Warner Classic. Et donc, après la première partie foréenne du concert du 28 mars, l'Orchestre National du Capitole, la soprano Florie Valiquette, le ténor Julien Bert, le baryton Jean-Sébastien Bou et le chœur Orpheon Donostiara ont interprété les sept paroles du Christ en croix de César Franck, une découverte pour la plupart des spectateurs présents et une redécouverte peut-être pour quelques rares initiés. Est-ce que ce fut un beau et un grand moment de musique comme on pouvait l'espérer, Serge ?
Ah, tout à fait, c'est une œuvre incroyable, hein, les sept paroles du Christ en croix. Alors on connaît tout ce que Joseph Haydn a écrit là-dessus, et celle de Franck, eh bien, elle date tout de même de 1859, et elle n'a été redécouverte qu'au bout d'un siècle de sommeil. Et encore, on a dû attendre avant d'obtenir sa première exécution. Contrairement aux partitions de Haydn, eh bien, celle-là a été oubliée, carrément oubliée. Alors, c'est une œuvre à l'écoute, donc c'était la première fois que je l'entendais de mon côté, mais que la plupart des gens, des spectateurs de ce concert l'entendaient aussi. C'est une œuvre composée dans ce qu'on pourrait qualifier de style ancien. Et donc, c'est une œuvre pleine de recueillement, de finesse, d'intériorité, avec quelques rares déploiements dramatiques, suivant les paroles évoquées dans la succession des épisodes. Et donc, la chef, Ariane Matiak, l'a vraiment abordée avec une sorte de sobriété intime, très touchante. Donc, elle nécessite un orchestre symphonique complet, hein, trois chanteurs solistes et un chœur, un grand chœur mixte. Et donc là, on a admiré, mais vraiment admiré, les qualités que l'on connaissait déjà de l'ensemble, l'Orfeo Donostiara, qui est dirigé par José Antonio Sainz Alfaro. Mais là, avec des qualités de finesse et de subtilité, des nuances dans les pianissimi tout à fait incroyables. Donc c'est vraiment très rare d'entendre une telle intensité dans l'émission de pianissimi, hein, voilà. Alors, justesse, cohésion, homogénéité, ça, c'est évident. Ce sont les qualités essentielles de base de ce chœur. Mais en plus, cette finesse, donc, qui était vraiment très adaptée à l'œuvre. Alors, les trois chanteurs solistes, ils s'insèrent dans cette succession des paroles sacrées du Christ. On a retrouvé la grâce lumineuse de la soprano, Florie Valiquette, la rondeur du timbre de Jean-Sébastien Bou, que l'on connaît, et l'exceptionnelle, je dois dire, aisance vocale du ténor Julien Bert.
Il a vraiment impressionné.
Ah, complètement. Il a en particulier négocié des aigus redoutables, oui, avec une finesse, un sens du pianissimo, mais qui a ahuri tout le monde. Et vraiment, c'est vraiment un grand chanteur qu'il va falloir suivre. Quant à la direction d'Ariane Matiak, ben, c'est toujours cette espèce de dépouillement délicat. Et elle a obtenu des musiciens le meilleur d'eux-mêmes, aussi bien dans le recueillement que dans les rares moments de révolte, avec des solos instrumentaux comme l'orchestre sait nous y habituer, hein, donc vraiment très bien, notamment le premier violoncelle qui a quand même quelques solos très beaux à émettre. Donc confirmation et découverte, voilà ce que l'on a eu au cours de ce très beau concert.
Une soirée qui était organisée en partenariat avec le Palazzetto Bruzane.
Bruzane, évidemment.
Qui œuvre beaucoup pour justement la préservation du patrimoine de la musique romantique française du 19e siècle, dont font partie évidemment ces sept paroles du Christ en croix de César Franck.
Et je suppose que cette recréation de l'œuvre de Franck a dû leur faire un grand plaisir d'ailleurs.
Alors, j'imagine bien, voilà, destinée incroyable, hein, de cette œuvre, composée en 1859 par César Franck. Franck est mort en 1890. L'œuvre est redécouverte au milieu des années 50.
Oui, c'est ça.
Et a priori, elle aurait été créée seulement en 1977, et même pas en France, en Allemagne.
C'est vraiment incroyable.
Et voilà. Bon, alors, c'était une grande chance de pouvoir assister à cette première à Toulouse, semble-t-il. Je ne pense pas que, même à l'époque de Michel Plasson,
je ne crois pas que ça a été donné.
Et bon, il faut absolument qu'on fasse écouter cette œuvre dans cette émission, au moins un extrait de ces sept paroles du Christ en croix de César Franck. Et j'ai choisi, bien, quelques jours après le Vendredi Saint, très arbitrairement, la quatrième parole, Deus meus ut qui dereliquisti me, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Deus meus ut quid de reliquisti me, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, quatrième des sept paroles du Christ en croix, extrait de l'Évangile selon saint Marc et ici extrait de l'œuvre qu'en a tiré César Franck dans une version de l'ensemble vocal de Lausanne dirigé par Michel Corbeau, magnifique pièce sacrée qu'il était temps de donner à Toulouse et qui nous permet de terminer en beauté cette première partie d'émission. Une petite virgule musicale et nous poursuivons avec notre rubrique Agenda, toujours en compagnie de Serge Ozy et avec Laurent Marfin. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Ozy et donc avec l'altiste Laurent Marfin, membre historique du Quatuor Modigliani qui se produit mardi prochain, le 9 avril à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, à l'invitation des Arts Renaissants pour le dernier concert de la saison 23-24. Laurent Marfin nous fait l'honneur et l'amitié d'être au téléphone avec nous. Bonjour Laurent et grand merci d'être au rendez-vous pile une semaine avant votre retour à Toulouse.
Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir surtout.
Eh bien, c'est toujours avec plaisir, bien sûr. Alors, pour vous, jouer à Toulouse, c'est un peu jouer à domicile, puisque vous êtes un ancien élève du conservatoire à rayonnement régional. Et j'imagine que c'est toujours un moment particulier de vous produire en concert dans la Ville Rose.
C'est toujours un très grand moment pour moi, et puis de pouvoir jouer devant toute la famille. On parle souvent du stress que peuvent avoir certains musiciens quand ils montent sur scène. Là, en l'occurrence, ce ne sera pas un stress d'interprétation ou qui est vraiment lié à la musique. C'est le stress de jouer devant toute une famille qui m'est chère. Et je pense que c'est le bon stress, c'est quelque chose de très bon pour faire ce genre de concert. Oui.
Vous êtes un vrai Toulousain ou vous êtes originaire de la région toulousaine?
Je suis né à Toulouse, vraiment, voilà. J'habitais à Saint-Orens, mais je suis né en face, à l'hôpital Lagrave, en face de l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines.
Voilà, ben c'est marrant, c'est comme Thibaut Garcia qui est né à Toulouse et qui a grandi à Saint-Orens.
C'est ça, voilà. Adam Laloum aussi, le pianiste.
Adam aussi a grandi à Saint-Orens.
Il a grandi à Saint-Orens aussi, voilà.
C'est une pépinière, Saint-Orens, apparemment.
Hein. Bon, extraordinaire. Hein.
Alors, vos années d'études au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, avant de partir au CNSM, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ont été cruciales dans votre formation de musicien, vraiment. Et vous avez suivi, si je ne me trompe pas, entre autres, l'enseignement de Domingo Mujica, l'altiste solo de l'Orchestre du Capitole.
Exactement. C'est Domingo qui m'a fait vraiment aimer l'alto. Parce qu'au début, j'ai commencé avec le violon. Comme beaucoup d'altistes, la base se fait souvent avec le violon parce que c'est un instrument plus petit, peut-être plus facile à aborder quand on est surtout pour le solfège aussi. Il n'y a qu'une seule clé, la clé de sol. L'alto, il faut lire en clé d'ut. Mais Domingo, il m'a fait aimer cet instrument de par le son qu'il a, très chaleureux, très chaud. Et puis cette personnalité qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, mais
on le connaît un peu tous les deux avec Serge Ozy. Oui, oui, oui.
Voilà, c'est quelqu'un d'incroyable et qui transmet avec beaucoup d'humanité. Ça m'a énormément plu. Ouais.
Et Domingo qui continue d'ailleurs d'enseigner au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse son instrument, l'alto. Concernant le Quatuor Modigliani, donc vous allez vous produire dans une semaine dans la saison des Arts Renaissants. Je crois que vous êtes souvent venu d'ailleurs jouer dans le cadre de cette saison avec les Modigliani.
Oui, on est venu quelques fois. Alors c'était au musée des Augustins. Ils doivent faire des travaux, c'est ça?
Oui, il y a des travaux déjà depuis quelques années qui se poursuivent. Absolument.
Mais c'est un mal pour un bien parce que l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines est un auditorium avec une acoustique incroyable. On prend beaucoup de plaisir à chaque fois qu'on vient jouer dans cette salle-là. Et effectivement, moi j'ai fait mes premiers concerts d'orchestre dans cet auditorium. Donc ça me rappelle des très très bons souvenirs.
Serge Ozy, vous voulez vous poser une question?
Oui, oui, oui. Non, je voulais simplement rappeler que la première fois où je vous ai entendu en direct, c'était noté le 17 juillet 2009 et c'était dans le cadre du festival Toulouse d'été. Et c'était d'ailleurs dans l'auditorium. Vraiment, le contact avec Toulouse date quand même de quelques années là.
Ah oui, on est venu quelques fois d'été et c'était dans le Claude Jacobin aussi.
Voilà, exactement. Oui.
Avec une acoustique. Rêver.
Oui, absolument. Oui, vous êtes venu souvent, effectivement, au Festival Toulouse d'été à l'invitation d'Alain Lacroix, que je salue au passage s'il nous écoute. Avant de parler du concert et de son programme, je voudrais qu'on revienne sur l'année 2023 parce qu'elle a marqué le 20e anniversaire de la création du Quatuor Modigliani. Le groupe est né en 2003 de l'amitié qui vous unissait à trois camarades du CNSM de Paris, parmi lesquels se trouvait déjà à la base un autre Toulousain d'ailleurs.
Un autre Toulousain, Philippe Bernard, voilà, qui a décidé de prendre une autre voie après 15 années de bons et loyaux services. Amaury Cueto l'a remplacé, mais effectivement, on s'est retrouvés tous les trois, on était vraiment quatre amis de conservatoire, et on s'était dit que pour vivre cette aventure-là, il fallait effectivement être passionné par ce répertoire qui est magnifique, mais également pouvoir échanger autre chose que la musique, et ça nous correspondait énormément à ce moment-là. Et toujours aujourd'hui, c'est pour ça, je pense, qu'on arrive à toujours être les mêmes. C'est qu'il faut arriver à partager autre chose que la musique quand on monte autant de fois sur scène et qu'on fait ce genre de travail qui est un travail de longue haleine et très intense, le travail du quatuor à cordes. Effectivement, il vaut mieux bien s'entendre.
Alors vos autres camarades, on va citer leurs noms tout de même, donc il y a Loïc Rio au violon et donc François Kiefer au violoncelle et Amaury Couetot qui vous a rejoint en 2016 lorsque Philippe Bernard a choisi une autre voie. Quand vous avez créé le quatuor en 2003, vous imaginiez qu'il pourrait durer aussi longtemps et qu'il puisse rencontrer un tel succès en France et même dans le monde?
Alors, je pense que sur la longévité, on ne s'attendait pas trop à ce que ça marche aussi bien et aussi longtemps que ça. On était juste parti de manière inconsciente dans cette aventure-là en se disant, voilà, on se donne toutes les chances de notre côté. On a laissé tomber tout ce qu'on avait, des petits concerts d'orchestre comme ça de temps en temps, mais on a eu cette chance de se rencontrer à la fin du conservatoire, ce qui veut dire qu'on n'était pas vraiment encore dans la vie active. Et on s'était dit justement, voilà, on se donne toutes nos chances et voyons jusqu'où ça va aller. Et on est très heureux de voir que le quatuor à cordes aujourd'hui a pris cet essor-là. À la suite de, il y avait le quatuor Isaïe qui a été nos grands professeurs. Et à l'époque, il y avait un petit peu que le quatuor Isaïe. Puis maintenant, il y a énormément de jeunes quatuors qui se mettent au genre parce qu'ils sont amoureux de cette écriture formidable et de cette vie également, qui est une vie de partage, qui n'est pas une vie de solitaire. Et c'est assez rare dans ce milieu-là, surtout quand on fait autant de concerts. Il faut partager ça avec quelqu'un et vivre cette aventure-là de cette manière-là, c'est formidable.
Vous avez l'impression d'avoir un peu ouvert une voie, en quelque sorte, avec le quatuor Modigliani, une voie dans laquelle se sont engouffrées d'autres formations depuis ?
Beaucoup de jeunes quatuors, effectivement. Alors là, ça fait peut-être 20 ans voilà, qu'on est sur le circuit, des concerts un petit peu internationaux et français également. Et on se rend compte que les jeunes quatuors ont peut-être plus confiance aujourd'hui que nous, il y a 20 ans, pour se lancer dans cette aventure. À l'époque, il y avait le quatuor Ébène, qui existe toujours et qui est un quatuor formidable, nous également, mais effectivement, il y avait plus de champs libres. Aujourd'hui, je ne sais pas si les places sont plus chères, mais en tout cas, il y a de plus en plus de monde, ce qui est à la fois extraordinaire et à la fois, voilà, il faut que chaque quatuor définisse vraiment son identité pour pouvoir apparaître et perdurer.
Vous évoquiez le quatuor Ébène à l'instant, et avec cette formation, vous êtes actuellement, le quatuor à cordes français le plus prestigieux, le plus récompensé et le plus demandé en France et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, le quatuor Modigliani, c'est combien de concerts par an, en moyenne ?
En moyenne, on doit être autour des 90 concerts, quelque chose comme ça. C'est beaucoup, et en fait, on essaye de réduire un tout petit peu pour pouvoir se consacrer un petit peu plus à l'enseignement aussi. On a monté une classe de quatuor à cordes à l'école normale de Paris, où on enseigne, on suit toute l'année 3 quatuors, 2 quatuors français et un quatuor danois. Et ce sont des jeunes quatuors qu'on a la chance de pouvoir suivre très régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours, dès que le planning nous le permet. Et donc on essaye effectivement de se donner du temps libre pour nos familles, pour l'enseignement, pour autre chose.
Mais donc, après 20 ans de concerts, de tournées, vous avez gardé le feu sacré, alors en y ajoutant l'enseignement, en y ajoutant aussi la direction artistique de certaines manifestations, comme les Rencontres musicales d'Évian. Je crois que vous avez aussi un festival du côté d'Arcachon.
Alors voilà, on a un festival du côté d'Arcachon. Et les Rencontres musicales d'Évian, on ne s'occupe plus de ce festival. En fait, on a laissé de côté ce festival qui s'est développé de manière incroyable, mais qui était plus trop axé sur la musique de chambre, pour nous occuper à Bordeaux du concours Vibre, concours international de quatuor à cordes, qui nous correspond pleinement aujourd'hui et qui était une évidence pour nous plutôt que de continuer pour les Rencontres musicales d'Évian. Et donc on est toutes les années, le concours est tous les 3 ans à Bordeaux, et toutes les années intermédiaires, on organise un festival avec des masterclass aussi où l'enseignement est toujours très important pour la jeunesse.
Alors la question que je me posais aussi, c'est qu'après 20 ans donc d'une carrière internationale, bon, ça doit être difficile, peut-être de plus en plus difficile de partir longtemps, de laisser sa famille. Mais peut-être la chance que vous avez, c'est que bon, vous partez à 4, contrairement à des pianistes qui eux partent seuls et que vous entendez tous très bien depuis longtemps et ça n'a pas changé.
C'est ça, ça n'a pas changé. On a toujours les mêmes envies quand on part en tournée. Après, maintenant, on essaie d'éviter les tournées internationales qui durent plus de 15 jours. On essaie d'en faire peut-être 2 par an, Asie et puis États-Unis, pour éviter justement de partir trop longtemps, parce qu'on a besoin d'être là, on a besoin d'être auprès de nos proches. Et on se rend compte qu'aussi, ça devient de plus en plus fatigant. Les voyages sont éprouvants. Quand on part aux États-Unis, on part pendant 15 jours, mais on donne 12 concerts dans des états différents.
Ouais, c'est parce que tous les soirs.
Ouais. Horaire, voilà, c'est ça. Donc c'est assez fatigant et on évite maintenant de trop faire ça. On se focalise beaucoup sur l'Europe et la France. Mais voilà, c'est sûr que de vivre ça à quatre, c'est une force que n'ont pas, comme vous le disiez, les solistes.
On en vient au programme que vous allez donner mardi prochain à Saint-Pierre-des-Cuisines pour ce concert, le dernier de la saison des Arts Renaissants. Quels sont les compositeurs, les pièces que vous avez retenues ?
Alors nous allons jouer un jeune quatuor de Mozart, qui est la période milanaise, période italienne de Mozart. Il avait 16-17 ans et à ce moment-là, il était à Milan et il a composé ce quatuor en trois mouvements, qui est un petit bijou, quelque chose d'assez léger, mais qui est extrêmement bien pour commencer un concert. On continuera avec la sérénade italienne d'Hugo Wolf. Hugo Wolf qui est plutôt connu pour ses leaders. Et on a la chance qu'il ait pu écrire cette petite pièce, qui est un petit bijou, qui est un peu une pièce de genre. On n'a pas trop de pièces de genre en quatuor à cordes. Et Hugo Wolf, c'est une pièce qui est très légère et très pétillante, qui permet justement de faire cette transition entre un jeune Mozart et puis la deuxième partie, qui sera un peu plus intense, avec le quatuor de Beethoven. Le premier Razumovsky, voilà, c'est l'année 1806 qui a été une grande année pour lui. Il aura composé ses trois quatuors dédiés au comte Razumovsky et puis le concerto pour violon aussi. Donc voilà, il était dans la fleur de l'âge de son écriture, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est un quatuor qui en impose énormément. Il fait partie vraiment des grands quatuors du répertoire et c'est un plaisir de jouer ce genre d'œuvre. Parler de la difficulté de continuer à partir en voyage, continuer à travailler. Mais en fait, c'est ça qui nous maintient, notre flamme, c'est de pouvoir jouer des chefs-d'œuvre comme ça, dans lesquels on ne se laisse jamais aller. On se laisse aller, mais je veux dire, il y a toujours une remise en question à chaque fois qu'on les joue. Et ça, c'est formidable de se rendre compte de la magie de ce genre de
Serge. Oui, je voudrais savoir comment pratiquez-vous le choix. Vous avez un répertoire très large qui va de Mozart, Haydn à Bartok. Comment choisissez-vous les œuvres que vous allez interpréter au cours des concerts? Est-ce que ce sont des demandes la plupart du temps des organisateurs ou est-ce que vous arrivez à imposer votre choix?
Alors on arrive de plus en plus à imposer notre choix. Au tout début, c'était pas évident parce qu'il y a toujours des questions d'œuvres qui sont déjà jouées dans les saisons précédentes ou dans la même saison par un quatuor un petit peu plus avancé que nous. Mais c'est sûr que c'est une grande question de se dire qu'est-ce qu'on aimerait jouer dans un an et demi, oui. Deux ans. Et puis les agents nous demandent des programmes pour justement proposer aux grandes salles. Et c'est jamais évident. Alors nous, on se fie un petit peu à notre instinct et à ce que chacun a envie de jouer. Et c'est pour ça qu'on arrive à programmer des œuvres qui me correspondent vraiment à tous les quatre. Mais c'est pas évident. Là, on avait prévu toute une année sur un programme italien un petit peu pour nos 20 ans. Là, on fait un petit mélange parce que, voilà, le Razumovsky doit venir un petit peu plus tard, mais les programmes italiens étaient un petit peu plus tôt. Donc, on a fait un joli mélange pour venir jouer à Toulouse. Mais c'est sûr que c'est pas évident. C'est des questions qu'on se pose et qui sont aussi plus agréables quand on est tout seul à prendre ce genre de choix. C'est qu'est-ce que je vais vouloir faire dans 2 ans? C'est pas facile.
Ah oui. Et oui, mais je dirais que c'est des problèmes de riches.
Voilà, je suis d'accord avec vous. Ben, en fait, c'est ça, donc c'est pas vraiment une problématique en soi, mais c'est des bonnes questions qu'il faut se poser en tant que quartettiste.
Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous là, pour cette émission, Laurent Marfin. On va vous souhaiter d'abord une bonne semaine et puis on sera là pour vous écouter mardi prochain à Saint-Pierre-des-Cuisines. On est impatients parce qu'à chaque fois que le comptoir Modigliani vient à Toulouse, c'est toujours un grand moment, Serge.
Ah oui, absolument. Donc, c'est un grand plaisir. Moi, je me réjouis d'avance d'entendre le Razumovsky, là, Ah oui, ça c'est une pure merveille.
Écoutez, on est très heureux de vous retrouver et puis voilà, donc très content d'avoir pu faire cette petite interview avec vous. Merci beaucoup.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Alors, je n'ai pas l'une des trois œuvres au programme du concert du 9 avril dans une version du Quatuor Modigliani à vous proposer, mais nous allons tout de même pouvoir vous entendre dans un quatuor à cordes de Mozart. C'est le 19e, le K465, dont nous écoutons le Menuetto, le troisième mouvement, joué par le Quatuor Modigliani. Thank you. Le troisième mouvement Menuetto du quatuor numéro 19 K465 de Mozart dans une version du quatuor Modigliani avec Laurent Marfin bien sûr à l'alto que je remercie encore une fois d'avoir accepté cette interview. Je rappelle donc que les Modigliani sont en concert mardi prochain le 9 avril à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines pour le compte de la saison des arts renaissants. Il y a trois pièces de Mozart, Beethoven et Hugo Wolf au programme. Et quelques jours avant, c'est l'Orchestre National du Capitole qui est de nouveau en concert à la Halle aux Grains, vendredi 5 avril à 20h. Un concert à l'accent anglo-saxon puisqu'il va être dirigé par le chef américain Robert Trevino et que l'on y retrouve en soliste invité le jeune pianiste britannique Benjamin Grosvenor, deux artistes qu'on a déjà eu l'occasion de voir à Toulouse, Serge, et qu'on aime beaucoup l'un et l'autre, deux authentiques et grands talents.
Ah, absolument. Alors, pour parler d'abord peut-être du soliste, du britannique Benjamin Grosvenor, bon, il possède une maîtrise qui est impressionnante hein, à son âge. Et sachez qu'il a commencé très tôt, puisqu'en 2004, il avait 11 ans, il a été lauréat du concours, fameux et prestigieux concours, BBC Young Musician Competition. C'est vraiment un grand concours international qui a un peu lancé sa carrière à l'âge de 11 ans, tout de même. Alors, il joue évidemment en soliste, mais il joue aussi avec les grandes formations du monde. Donc, c'est vraiment un pianiste accompli et qui est à la tête d'une carrière tout à fait prestigieuse. Et au cours du concert du 5 avril, donc, il va être le soliste du concerto pour piano orchestre numéro 2, composé en 1861 par Franz Liszt. Mais Franz Liszt qui a beaucoup remanié, comme pour son premier concerto d'ailleurs, la partie de piano, et qui a donc imaginé une œuvre constituée d'un seul mouvement, mais divisée en 6 parties. Alors évidemment, il faut une virtuosité à toute épreuve, mais pas que ça, évidemment. Il y a vraiment la grande musicalité, et là, je crois qu'on peut être persuadé de cet ensemble de qualités de ce jeune pianiste, donc Benjamin Grosvenor.
Benjamin Grosvenor, qui a 31 ans, est un des pianistes les plus doués de sa génération. Oh, il est très demandé, il est encensé par les critiques à chacune de ses performances en concert. Exactement. Et pour ses enregistrements, songez qu'il a déjà enregistré 6 CD, tout de même. Et le dernier est consacré justement à Liszt. Il est paru en 2021. C'est un spécialiste de ce compositeur et de Chopin aussi d'ailleurs.
Absolument. Il est vraiment, il aime beaucoup la musique de Liszt et vraiment, il est un de ses interprètes dominants, on peut dire actuellement.
On va l'écouter tout de suite, Benjamin Grosvenor, dans une interprétation du concerto pour piano numéro 2 de Franz Liszt. C'est un extrait du quatrième mouvement, Allegro Animato. Benjamin Grosvenor interprétait le début du quatrième mouvement Allegro animato du concerto pour piano numéro 2 de Franz Liszt, une œuvre qu'il va jouer vendredi prochain à la Halle au Grain, accompagnée par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Robert Trevino. Il y a deux autres œuvres au programme de ce concert, Serge. L'une est très connue, l'autre beaucoup moins. Mais je voudrais que vous nous disiez un mot sur Robert Trevino.
Oui, ah oui, oui, c'est d'ailleurs un... Il est de nationalité américaine, mais d'origine mexicaine. Et donc, c'est Robert Trevino.
Oui,
il y a en fait un tilde sur le N. Et donc, bon, ben, il est déjà à la tête d'une belle carrière. Hein. Il dirige les plus grandes formations symphoniques ou philharmoniques du monde. Il a fait sensation au Théâtre Bolshoï en 2013 parce qu'il a dirigé à la dernière minute une nouvelle production de Don Carlo de Verdi. Et vraiment, ça a ahuri tout le monde, donc ça a un peu lancé sa carrière. Bon, c'est vraiment un grand musicien qui est le chef principal invité de l'Orchestre Symphonique National de la RAI, et il est même conseiller artistique de l'Orchestre Symphonique de Malmö en Suède, donc il a vraiment une activité très
internationale,
débordante, hein. Internationale. Et donc, il a mis au programme... Alors, pour débuter le concert, une œuvre peut-être un peu moins jouée d'ailleurs que toutes les autres, c'est la musique pour cordes, percussions et célesta de Béla Bartók. Ça a été composé en 1936 et donc c'est vraiment une œuvre musicale novatrice et qui se caractérise surtout par une invention rythmique incroyable, très originale et avec ces sources folkloriques que l'on retrouve très souvent dans la musique de Béla Bartók. C'est vraiment un très beau moment qu'il faut écouter avec le grand plaisir, donc cette belle musique pour cordes, percussions et célesta, comme son nom l'indique, hein, avec vraiment une utilisation très particulière des percussions. Et puis, en deuxième partie de concert, voilà une œuvre rarissime, on peut dire,
oui.
Puisqu'il s'agit de la 5e symphonie, pom 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 pom, vous m'avez compris, de Beethoven. Bon, là, évidemment, on ne peut pas présenter cette œuvre, mais qui est tellement connue. Tellement connue qu'elle n'est pas si souvent jouée, d'ailleurs. Honnêtement, l'Orchestre National du Capitole, il doit y avoir quelques années qu'il ne l'a pas jouée. Hein. Voilà, donc on est tout content de retrouver notre...
Ces dernières années, l'orchestre a plutôt joué la 3e,
oui.
L'héroïque.
La 7e.
La 7e.
Voilà. Oui.
Éventuellement la 9e.
Oui.
Mais la 5, oui, c'est pas forcément celle qui est le plus jouée, même si elle a été donnée il n'y a pas si longtemps, puisque j'en ai un extrait dans une version de l'Orchestre National du Capitole. Et vous devez y être, Serge, c'était celle qui a été dirigée par Antonello Manacorda.
Ah oui.
Voilà, à la Halle au Grain.
Oh,
eh bien, on va écouter tout de suite, on va avoir un petit aperçu de cette version dirigée par Antonello Manacorda avec l'Orchestre du Capitole.
Thank you.
Un extrait de la 5e symphonie de Beethoven, interprété par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par le chef franco-italien Antonello Manacorda. Mais c'est Robert Trevigno qui va donc la diriger vendredi à la Halle aux Grains, lors d'un concert qui commence à 20h. Nous avons 3 autres concerts à vous annoncer, tous donnés par l'ensemble baroque de Toulouse. D'abord avec le programme Vivaldi entre ombre et lumière, joué jeudi 4 avril à 20h30 à l'espace Palumbo de Saint-Jean et rejoué le lendemain, vendredi 5, mais à 19h30 à l'espace Gentillet de Fonds Beaux-Arts. Quelles œuvres du grand compositeur italien va-t-on y entendre, Serge ?
Eh bien, on va entendre d'abord le Stabat Mater, très belle œuvre de Vivaldi, puis le concerto pour flûte Il Gardellino,
le Chardonneret.
Chardonneret, exactement, donc. Et puis la Sinfonia al Santo Sepolcro, vraiment une symphonie très intense et très intérieure. Et puis, ce sera complété par des arias d'opéra, donc on n'a pas le détail, mais donc...
Alors je crois qu'il y a Bajazet,
voilà, oui.
Des extraits de Bajazet, et puis peut-être d'autres.
Parce que Vivaldi a composé beaucoup
énormément d'opéra,
très nombreux
d'opéra. La plupart ne sont pas connus. Oui, alors il n'y a pas que les 4 saisons qui sont jouées du Vivaldi, heureusement.
Non, mais enfin...
Heureusement, mais
c'est
bon,
ce qui est le plus souvent
il y a ces concertos
joué.
Pour mandoline, oui. Qu'on entend quand même de temps à autre. Et puis alors ces opéras, là, c'est vraiment des raretés.
Ah oui.
En Italie, sans doute, ils doivent être donnés de temps à autre, mais bon, ça reste quand même l'exception. Donc l'ensemble baroque qui se produit le 4 avril à l'espace Palumbo de Saint-Jean et le 5 à l'espace Gentillet de Fonds Beaux-Arts avec ce programme Vivaldi entre ombre et lumière. Et bien voici un extrait du Stabat Mater de Vivaldi dans une version de l'ensemble baroque de Toulouse. La mezzo-soprano Caroline Champy-Tursin et l'ensemble baroque de Toulouse dans cet extrait du Stabat Mater de Vivaldi, l'une des œuvres au programme des concerts Vivaldi en ombre et lumière donnés jeudi à 20h30 à l'espace Palumbo de Saint-Jean et vendredi à 19h30 à l'espace Gentillet de Fonds Beaux-Arts. Et l'ensemble baroque de Toulouse est très actif cette semaine puisqu'il est de nouveau en concert dimanche, le 7 avril à 17h au Théâtre Municipal de Castres. Là, il propose le programme Exalté Bach, Serge, avec deux magnifiques cantates.
À deux des plus belles cantates, si l'on peut dire, de Jean-Sébastien Bach, mais très opposées comme pouvoir expressif, en
et comme ambiance, oui.
Ah oui, il y a d'abord la célèbre « Ich habe genug » BWV 82, c'est-à-dire « Je suis satisfait » en quelque sorte.
Je suis comblé, oui.
Comblé, satisfait. Donc, vraiment une œuvre très profonde, très, très intense, très dramatique.
Méditation sur la mort.
Voilà, exactement. Et elle s'oppose complètement à l'autre cantate qui sera jouée, « Jauchzet Gott in allen Ländern », c'est-à-dire « Célébrer Dieu dans tous les pays, dans toutes les contrées », la BWV 51, où là, c'est en quelque sorte le triomphe de la joie, du bonheur, avec une trompette virtuose qui accompagne la voix de soprano. Là, c'est une vraie tuile pour la trompette,
c'est ce que
cette
cantate. Ah, oui, c'est oui. Trompette naturelle.
Hein. La trompette naturelle, c'est vraiment très, très difficile, mais je suis à peu près sûr, j'ai quelques idées sur le trompette solo qui sera
quelqu'un qui est
là.
Capable d'affronter
voilà, oui, absolument.
L'obstacle.
Donc, deux très belles cantates au Théâtre Municipal de Castres, donc dimanche 7 avril, à 17h.
Je dis à tous les Tarnais qui nous écoutent que c'est un programme de gala à ne pas manquer pour tous les amoureux de Bach et puis aussi pour tous ceux qui voudraient découvrir Bach en concert, parce que là, c'est l'occasion rêvée, je trouve, à ce programme. On va écouter un extrait de la sublime cantate BWV 82 de Jean-Sébastien Bach, « Ich habe genug, je suis comblé ». La superbe, sublime cantate BWV 82 de Jean-Sébastien Bach, qui Schabe Genug, je suis comblé, dans une version du Collegium Vocal de Gand dirigée par Philippe Herweg. C'est une des deux cantates du programme Exalté Bach que propose l'ensemble baroque de Toulouse au Théâtre Municipal de Castres, dimanche 7 avril à 17h. L'ensemble baroque est donc également en concert jeudi 4 avril à 20h30 à l'espace Palumbo de Saint-Jean et vendredi 5 à 19h30 à l'espace Gentillet de Fonds-Beaux-Arts. Je vous invite à consulter son site web pour vous renseigner sur les tarifs. Il y a des concerts qui sont gratuits, d'autres qui ne le sont pas. Donc renseignez-vous sur www.baroquetoulouse.fr pour le concert de l'Orchestre National du Capitole et du pianiste Benjamin Grosvenor, dirigé par Robert Trivino, vendredi 5 avril à 20h à la Halle au Grain, avec au programme le concerto pour piano numéro 2 de Liszt, la 5e symphonie de Beethoven, et musique pour cordes, percussions et célesta de Béla Bartok. Les réservations et achats des places sont à faire en ligne à l'adresse www.onct.toulouse.fr. D'autre part, pour le concert du Quatuor Modigliani, et donc avec Laurent Marfin à Saint-Pierre-des-Cuisines, mardi 9 avril à 20h dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. Le programme est constitué de quatuors à cordes composés par Mozart, Beethoven et Hugo Wolf. Et la billetterie et les réservations sont en ligne sur le site www.art-renaissant.fr. Et puis je rappelle que la nouvelle production de Cenerentola de Rossini est encore à l'affiche de l'Opéra National du Capitole pour 5 représentations jusqu'au 7 avril. Vous pouvez également y assister au Midi du Capitole de Marie-Laure Garnier ce jeudi 4 avril à 12h30. Billetterie en ligne à l'adresse www.opera.toulouse.fr. Je remercie Serge Chosy et Laurent Marfin d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Christophe Aubry de l'avoir réalisé. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de votre écoute fidèle chaque mardi et mercredi. Excellente semaine musicale à tous. À bientôt.